C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est demain que s'ouvre à Marrakech la 22e conférence des Nations Unies sur le climat. La dynamique est lancée. L'accord de Paris, ratifié par près de 90 pays, qui totalise près des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre mondial, est entré en vigueur vendredi. Alors, de quoi vont parler les représentants des 193 pays réunis pendant 15 jours au Maroc? Nous vous dirons tout avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
La tension est extrême. Qui sera le nouveau président des États-Unis? Résultat mercredi, mais il y a une certitude. Les arguments de l'un et de l'autre concernant la protection de l'environnement ou les changements climatiques ne seront pas décisifs pour une raison simple. C'est la thématique la plus absente de la campagne et ce n'est pas sans conséquence. Bonjour Henri Landès.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, Paris et auteur de Allo Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère, publié aux éditions Max Milo, vous êtes donc en colère?
Je suis en colère pour plusieurs raisons, oui. On a d'abord une élection avec un candidat catastrophique qui est Donald Trump, qui n'a aucune conviction sur la question environnementale, parmi plein d'autres arguments qui sont absolument catastrophiques en matière de progrès social, de progrès sur le plan économique. Et nous avons aussi Hillary Clinton qui n'est pas très populaire pour plusieurs raisons, sa proximité avec des grands lobbies financiers, les industries de l'énergie fossile, pharmaceutique, etc. Et ce problème des emails qui n'arrête pas de revenir hanter un petit peu sa campagne. Bref, les Américains et moi-même n'ont qu'une attente, c'est que cette élection soit terminée, mais pourvu que nous évitions la catastrophe d'une élection de ce clown Donald Trump.
Alors le niveau des débats n'est pas très élevé, hein. C'est ce que vous dites oui. En filigrane, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains commentateurs disent même que c'est la campagne la plus minable qu'aient connue les États-Unis. Alors que peut-on retenir quand même des rares déclarations sur les sujets environnementaux de l'un et de l'autre?
Oui, alors Donald Trump est un climato-sceptique, au moins c'est ce qu'il dit. Il dit que le changement climatique est un problème inventé par les Chinois pour affaiblir l'économie américaine. J'ai envie de dire no comment, c'est tellement obscurantiste. Il ne parle d'aucun autre sujet environnemental, si ce n'est que pour dire « je vais, en tant que président, enlever toutes les subventions et tous les moyens d'action de l'Agence de protection de l'environnement », que protéger l'environnement, c'est une nuisance à l'économie. Donc, on revient terriblement en arrière par rapport à ce qui est compris maintenant dans le monde entier, que préserver l'environnement, c'est une opportunité économique si on le fait bien. Ça, c'est du côté de Donald Trump. Du côté de Hillary Clinton, donc, c'est pas très difficile de faire mieux. C'est diamétralement opposé sur la question climatique. Elle comprend que le changement climatique est une des plus grandes menaces pour l'humanité. Elle souhaite que nous augmentions la production d'énergie renouvelable.
Oui, elle a dit qu'elle installerait 500 millions de panneaux solaires.
Oui, elle souhaite que tous les logements soient, en 2020, alimentés par de l'électricité solaire, ou renouvelable plutôt, ce qui est ambitieux et c'est convenable pour une annonce sur la transition énergétique. On ne traite pas énormément plus de sujets du côté démocrate non plus sur l'environnement. On n'a pas beaucoup traité la préservation de la biodiversité, on n'a pas beaucoup parlé d'une agriculture durable, on n'a pas beaucoup parlé de la lutte contre la pollution de l'eau, très peu traité les questions de paysage et de surface naturelle aux États-Unis qui justement font sa richesse. Donc on a globalement une pauvreté de la question environnementale dans le débat, même si Hillary Clinton a compris qu'il y a urgence sur certaines questions et Donald Trump veut revenir un siècle en arrière.
Mais pourtant, les États-Unis ont un environnement très dégradé aujourd'hui.
Alors, les États-Unis ont un environnement très dégradé, sont aussi coupables d'être historiquement le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Les Américains ne remettent pas en question encore suffisamment leur mode de vie. C'est-à-dire, si nous consommions tous comme des Américains aujourd'hui, nous aurions besoin de 5 planètes pour satisfaire nos besoins. Alors que l'humanité aujourd'hui consomme pour près 1,5 planète. Donc on n'est déjà pas soutenable. Si on était comme des Américains dans notre consommation, ce serait catastrophique. Peut-être c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de rechercher une deuxième planète.
Alors vous le disiez en introduction de cette émission, vous êtes en colère, vous êtes profondément remonté, comme de nombreux Américains, vous le décrivez dans votre livre, contre l'influence croissante des intérêts privés sur la politique. C'est un phénomène que Leonardo DiCaprio, messager de l'ONU pour la paix, dénonce aussi dans son documentaire sur les changements climatiques, Before the Flood, avant le déluge, qui a été diffusé dans 45 langues et dans plus de 70 pays simultanément cette semaine, justement pour alerter les Américains avant les élections. Et il rappelle dans son documentaire la persistance du discours climato-sceptique dans les médias.
Personne ne veut parler du changement climatique. Et en premier lieu, le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui n'y croit pas et n'a pas du tout envie d'aider notre État.
Je ne crois pas que l'activité humaine cause les changements radicaux sur le climat que décrivent certains scientifiques.
Les images satellites depuis 17 ans montrent qu'il n'y a eu aucun réchauffement notable.
On nous annonçait 21 degrés aujourd'hui, mais on gèle. On nous parle de réchauffement climatique, mais on en a bien besoin. On a froid.
Malheureusement, nous devons combattre cette campagne massive de désinformation qui trompe l'opinion publique.
Si on regarde les données satellites, on n'a aucun réchauffement significatif depuis 1998. Au contraire, depuis quelques années, on a un refroidissement.
Si vous pensez que le réchauffement climatique est notre plus gros problème, vous êtes un abruti total.
Ces gens savent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir raison lors d'un débat scientifique légitime. Il leur suffit de diviser le public. Et la haine et la peur ont été attisées et financées par quelques acteurs clés, à savoir les lobbies des énergies fossiles et des gens comme les frères Koch, qui financent la chambre d'écho du climato-scepticisme.
De nombreux climatologues pensent que les faits scientifiques ne sont pas avérés.
Le réchauffement est illusoire, on vit un refroidissement.
C'est plus facile de croire à un Dieu bienveillant et au petit Jésus qu'à une théorie sur le réchauffement climatique.
Ils trouvent des gens avec un CV impressionnant, prêts à vendre leur réputation professionnelle au lobby des énergies fossiles. On a toutes sortes d'organismes avec des noms ronflants comme les Américains pour la prospérité ou l'Institut Heartland qui sont à la solde d'intérêts industriels. Par exemple, les Américains pour la prospérité est une société écran des frères Koch. Koch Industries est l'un des plus grands groupes privés d'énergie fossile et il fait tout pour protéger leurs bénéfices.
Êtes-vous prêt à renoncer à l'industrialisation, à la productivité qu'elle nous a apportée, à toutes les vies sauvées depuis un siècle, juste pour que la température ne monte pas d'un demi-pourcent ou d'un millième de pourcent?
Certains sont arrogants au point de penser qu'ils ont le pouvoir de changer le climat. L'homme ne peut pas changer le climat.
Ces gens sont engagés dans une campagne pour nous emmener sur la mauvaise voie au nom des profits à court terme du secteur des énergies fossiles pour qu'on laisse derrière nous une planète abîmée. Ce n'est pas le comble de l'immoralité ?
Extrait du documentaire Before the Flood, avant le déluge de Leonardo DiCaprio. Henri Landès, comment est-ce que c'est possible qu'en 2016, il y ait encore ce type de discours aux États-Unis, discours majoritaire d'ailleurs au Congrès américain ?
Il y a aux États-Unis un cancer dans sa démocratie qui est l'influence des intérêts privés, surtout sur les parlementaires, les élus au Congrès. Il faut savoir que les frères Koch sont juste deux parmi nombreux donateurs qui viennent du monde de l'énergie fossile aux campagnes des parlementaires qui financent énormément, enfin directement du lobbying, qui financent leur campagne électorale. Nous avons une explosion, surtout depuis 35 ans, des financements privés aux campagnes électorales, ce qui rend extrêmement difficile de mettre en place une réforme sur la lutte contre le changement climatique et qui influence énormément ces élus du Parti républicain qui voient aussi une opportunité d'instrumentaliser cette question environnementale et de diviser ou de créer du doute dans le monde scientifique en disant il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de preuves aujourd'hui, etc. Ils utilisent la même tactique qu'ils ont utilisée dans le doute qu'ils ont semé sur les effets du tabac quelques décennies avant cela. Naomi Oreskes écrit un bon livre là-dessus sur les marchands du doute. C'est les mêmes tactiques. Tant qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas suffisamment de preuves pour agir et de nécessité d'agir. Et ce qui est le résultat de tout ça, c'est que nous avons une population de l'électorat de droite du Parti républicain qui ne croit pas au changement climatique anthropique dû aux activités humaines. Il y a encore seulement 30 à 36% des électeurs du Parti républicain qui pensent que le changement climatique est dû aux activités humaines. Dans le Tea Party, la branche la plus extrême de ce parti, c'est 20%. Une personne sur cinq qui croit que le changement climatique est dû aux activités humaines. Alors on a aussi un problème aux États-Unis. Du côté démocrate, c'est seulement les deux tiers. Hein. C'est quand même beaucoup mieux, mais on a un problème aux États-Unis sur cette croyance que la science, ce sont des faits et la croyance, c'est des opinions. Ils confondent les deux. J'ai souvent entendu des élus du Parti républicain qui disent « je ne crois pas au changement climatique et c'est mon droit ». Eh bien, j'ai envie de dire « vous avez le droit à votre opinion, les scientifiques ont le droit à leurs faits ». Et on a un problème avec ça aux États-Unis parce que c'est une vérité, comme le dit Al Gore, qui dérange. Parce que le modèle de vie, les modes de vie américains, ce serait une grande rupture de mettre en place une vraie politique de lutte contre le changement climatique. Et George H.W. Bush, quand il est allé à Rio lors du sommet de la Terre, il a dit cette phrase qui est une tache noire dans les négociations internationales sur l'environnement, qui est « le mode de vie américain n'est pas négociable ». Et ce qui est contribué au Congrès, c'est on continue à financer ce modèle de consommation de masse, etc. Et on ne remet pas en question les choses, on sème le doute dans la société et nous avons encore 25 ans plus tard le même problème.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la thématique environnementale dans la campagne présidentielle américaine à l'approche, toute approche des élections. Henry Landes, Barack Obama s'est beaucoup mobilisé pourtant sur ce sujet, surtout pendant son second mandat.
Barack Obama a été le premier président à établir une politique de lutte contre le changement climatique aux États-Unis. Surtout dans son second mandat, c'est bien dit parce que même lui était confronté à des enjeux électoraux et savait que s'il parlait trop de changement climatique pendant son premier mandat, il allait nuire à ses chances de se faire réélire plus facilement, notamment parce qu'il y a des États démocrates dans le nord-est des États-Unis qui sont très charbonniers dans leur économie et il fallait se faire réélire. Donc c'est intéressant, pendant sa campagne de réélection, il n'a pas dit le mot changement climatique plus d'une seule fois, il parlait toujours d'investir dans, entre guillemets, les énergies du futur. Et qu'est-ce qui s'est passé dès sa réélection? Le premier grand discours qu'il a fait à Georgetown quelques mois après, c'était sur son plan de lutte contre le changement climatique et depuis, il a pris le sujet à bras-le-corps.
Alors justement, dans son documentaire Avant le déluge, Leonardo DiCaprio est allé rencontrer Barack Obama. Je vous propose d'écouter leurs échanges.
L'accord de Paris est historique, non seulement parce qu'il nous oriente dans la bonne direction, mais aussi parce que pour la première fois, les pays se sont engagés à prendre des mesures concrètes et à atteindre des objectifs vérifiables. Ça crée une architecture qui nous permet d'attaquer enfin ce problème frontalement. Il faut consacrer les 20 prochaines années à la mise en place des technologies existantes pour réduire les émissions de carbone, et ensuite revoir nos ambitions à la hausse à mesure qu'on aura de nouvelles technologies. Ainsi, on pourra avoir chaque année des objectifs plus ambitieux.
J'admire votre optimisme.
Oui.
Vous êtes le chef du monde libre. Vous avez accès à des informations que nous n'avons pas. Qu'est-ce qui vous fait peur pour demain ?
Une grande partie de la population mondiale vit près des océans. Si tous ces gens doivent migrer, on aura une raréfaction des ressources. Les populations se battront pour les exploiter. C'est ce qui a poussé le Pentagone à déclarer que c'était un problème de sécurité nationale, pas juste un problème environnemental. La sécurité nationale est en jeu. Il y a bien sûr ma tristesse si mes enfants ne peuvent jamais admirer un glacier comme j'en ai vu quand je suis allé en Alaska. Mais même si on ne voit pas ça sous un angle sentimental, mais plutôt de manière froide et rationnelle, on s'inquiète des implications pour notre sécurité et pour la préservation de l'ordre mondial. On devra apprendre à survivre avec les pressions que les scientifiques nous prédisent si nous ne faisons rien. C'est pour cela qu'il faut agir dès maintenant. Si on continue à exiger des mesures, à militer et surtout à informer le grand public, on pourra résoudre le problème à temps.
Henri Landès, quand même, Barack Obama dit que c'est une question de sécurité nationale. Qu'est-ce qui va rester de cet héritage ?
Il a raison de dire que c'est une question de sécurité nationale. Si on regarde certaines tensions qui existent aujourd'hui dans le monde, le changement climatique est soit à l'origine, soit un effet multiplicateur ou exacerbe les tensions. En Syrie, on a eu plus d'un million de personnes qui se sont déplacées des territoires ruraux à cause de sécheresse dans des villes qui ont tout d'un coup été surpeuplées. Et quand les violences se sont développées, il y avait donc beaucoup plus d'intensité à ces violences-là. C'est un petit peu la même situation à cause de stress hydrique et de réduction des ressources en eau au Nigeria qui a fortement favorisé la prise du territoire par Boko Haram. Quand des populations sur les côtes, comme le dit Barack Obama, doivent se déplacer, nous faisons face à des situations que nous ne connaissons pas auparavant. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près 26 millions de personnes déjà dans le monde, chaque année, qui se déplacent à cause des catastrophes naturelles.
Oui, mais d'accord, du coup, quand on entend Barack Obama, on se dit, lui, sur la fin de son mandat, affirme de tels propos. Maintenant, ouais. Qu'est-ce qui va rester avec le futur ou la future présidente de ces discours ?
Ça va être très compliqué d'hériter ce bilan-là, parce que si c'est Hillary Clinton face à un congrès qui est majorité républicain, elle va se faire attaquer sur plein de choses, mais elle va aussi avoir un blocage au congrès pour mettre en œuvre de la législation sur l'environnement. Il faut savoir que les congrès qui ont été à majorité républicaine depuis quelques années sont les congrès les plus anti-environnement de l'histoire. Et en une année, en 2012-2013, le 112e congrès a voté 247 fois pour affaiblir de la régulation sur l'environnement. C'est un record. Alors heureusement, Barack Obama était là pour mettre son veto à chaque fois. Donc Hillary Clinton pourrait avoir comme principal métier de mettre un veto sur l'ensemble des mesures qui viennent sur son bureau.
Et si c'est Donald Trump, est-ce qu'il peut, par exemple, sortir les États-Unis de l'accord de Paris ?
Il peut signer un papier, comme Barack Obama a fait, en disant « les États-Unis se retirent de l'accord de Paris ». Alors s'il le fait comme ça, ça serait un non-respect de l'accord de Paris. C'est-à-dire que l'accord de Paris dit qu'après 3 ans, les États peuvent soumettre un document disant on se retire, et c'est 1 an plus tard, après ce dépôt de document, que le pays s'en sort sans pénalité. Mais on n'a pas vraiment de précédent de pays qui se retirent avant ces 3 années-là. On n'a pas de précédent, donc qui sait exactement ce qui se passera. Quand Donald Trump dit cela, il montre qu'il n'a rien compris aux négociations internationales, parce que l'accord de Paris, en fait, la seule chose qui est vraiment contraignante pour les pays, c'est que le pays dise ce qu'il va faire et augmente son ambition régulièrement. Il n'y a pas d'objectifs chiffrés donc, qui sont contraignants, c'est des objectifs volontaires. Donc Donald Trump, il pourrait juste essayer d'affaiblir l'action au niveau national, et même cela, il n'a rien compris à l'action nationale, parce qu'il y a déjà une belle trajectoire lancée par Obama. Donc je suis plutôt optimiste là-dessus.
Alors quels sont vos pronostics rapidement ?
Hillary Clinton gagne de justesse, heureusement, mais nous devons rester mobilisés et attentifs.
Merci beaucoup Henri Landès. Je rappelle le titre de votre livre, Allô Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère. C'est publié aux éditions Max Milo. Restez sur RFI juste après le flash d'info. Nous vous dirons tout avec nos invités sur ce que l'on peut attendre de la 22e conférence des Nations Unies sur le climat qui débute demain à Marrakech. À tout de suite. Internet.